Champagnac, chronique du crime et de l'innocence. Procès des Templiers, leur innocence et leur condamnation, héroïsme de Jacques Molay, leur grand maître. Le procès des Templiers est une de ces iniquités qui font époque dans l'histoire d'une nation. L'illustration des accusés, la rapacité et la mauvaise foi des accusateurs, l'absurdité des accusations, les motifs odieux et vils qui dictèrent la sentence des arbitres suprêmes ont imprimé à cette cause un intérêt puissant et qui sera toujours inséparable du souvenir glorieux de ces illustres victimes. On sait que les Templiers avaient rendu d'éminents services à la chrétienté pendant les croisades. Lorsque, par suite des succès des armes chrétiennes, ces expéditions pieuses furent regardées comme n'étant plus nécessaires, les Templiers revinrent jouir en Occident des biens immenses qu'ils avaient conquis sur les infidèles à la pointe de leur épée. Leur faste, les mœurs orientales que la plupart d'entre eux avaient contractées, étaient peu conformes aux règles des religieux. L'Église censura la conduite des Templiers, qui repoussèrent dédaigneusement ces remontrances. Philippe le Bel, extrêmement jaloux de son autorité, qu'il avait défendu avec opiniâtreté et succès contre les vassaux rebelles, conçut quelque ombrage de l'attitude altière de l'ordre des Templiers, déjà si formidable. Il crut qu'il aspirait à l'indépendance et se refuserait désormais à plier sous la volonté royale. Cette crainte aigrit son esprit, et des courtisans envieux ne manquèrent pas d'entretenir cette erreur. On lui disait que cet ordre devait finir avec les causes qu'il avait fait naître, qu'il fallait redouter une malice religieuse qui ne professait ni la soumission des guerriers, ni la vie claustrale et pacifique des cénobites. Mais la crainte que ces chevaliers inspiraient était encore moins forte que le désir qu'on avait de les dépouiller de leur immense trésor. Pour assurer cette spoliation et lui donner une couleur légale, il fallait juger l'ordre tout entier et par conséquent lui trouver des crimes. Dès lors, les courtisans commencèrent à les décrier et à déclamer partout contre leur orgueil, leur débauche et leur impiété. Ces bruits trouvèrent de l'écho parmi le peuple qui, selon sa coutume, exagéra encore les récits qu'il entendait faire à l'occasion des Templiers. Voici ce qui servit de fondement à l'accusation juridique intentée bientôt après contre cet ordre célèbre. Un chevalier apostat, florentin de nation nommé Nofodei, ayant été arrêté pour un crime qui provoquait la peine capitale, fut renfermé dans un cachot avec un autre misérable nommé Skin de Florian, qui était réservé au même supplice. Ils se préparèrent mutuellement à la mort et se confessant l'un à l'autre, suivant l'usage de la primitive Église. La confession du Templier était un débordement d'aveux épouvantables. Skin de Florian en profita. Il se persuada qu'en chargeant tout l'ordre des crimes dont il venait d'entendre le récit, il pourrait être gracié, même récompensé. Il demanda donc au magistrat de leur révéler un secret important. On l'écouta et sa déposition, quoique ignorée du peuple, suggéra d'avance les commentaires les plus étranges, les plus révoltants. Les Templiers, disait-on, avaient, par un pacte secret avec les Sarrasins, promis de renier leur dieu et d'adorer Moloch et Belzébuth. La réception de leur novice, ajoutait-on, offrait des actes d'impiété et d'indécence. Le blasphème et le parjure étaient au nombre de leurs préceptes ténébreux. On prétendait aussi que la sodomie était recommandée comme un point de règle dans leurs abominables initiations, et l'on ajoutait qu'ils égorgeaient les enfants qui naissaient de leur liaison clandestine avec les filles et les femmes. Voici ce que dit à leur sujet M. de Chateaubriand, dans ses études historiques. 9 gentilshommes français établirent en 1118 l'ordre des Templiers à Jérusalem. Cet ordre acquit d'immenses richesses et devint suspect aux peuples et aux rois. Les Templiers étaient accusés de se vouer entre eux d'infâmes voluptés, de renier le Christ, de cracher sur le crucifix, d'adorer une idole à longue barbe, aux moustaches pendantes, aux yeux d'escarboucle et recouverte d'une peau humaine, de tuer les enfants qui naissaient d'un Templier, de les faire rôtir, de frotter de leur graisse la barbe et la moustache de l'idole, de brûler le corps des Templiers décédés et de boire leur sang détrempé dans un filtre. On peut toujours deviner les siècles au genre de calomnies historiques brutales et absurdes dans les temps de grossièreté et de foi, raffinées et presque vraisemblables dans les temps de civilisation et de doute. Philippe apprenait avec une secrète joie toutes ces exagérations calomnieuses parce qu'elles favorisaient ses desseins. Il concerta avec ses conseillers l'arrestation subite de tous les Templiers, le même jour et par toute la France. Aussitôt leurs biens, cause de leur perte, furent confisqués, et le roi vint, sans pudeur, prendre possession de leur palais du Temple qu'il avait remplacé pour eux par d'obscures prisons. Clément V, créature de Philippe, venait de succéder à Boniface VIII. Il devait tout à Philippe, et il se promit de seconder toutes ses volontés. Philippe le Bel était implacable et expéditif dans ses vengeances. On commença l'instruction du procès des Templiers, et pour leur arracher les aveux, on déploya dans leur cachot tout l'appareil des tortures les plus affreuses. Ceux qui refusaient de confesser les faits dont on leur donnait lecture étaient mis sur des chevalets et livrés aux bourreaux. Leurs membres disloqués, leurs os broyés, le sang qui ruisselait sur leur corps, les cris arrachés par la douleur, faisaient frémir leurs compagnons, qui, privés à dessein de sommeil et de nourriture, avaient perdu cette mâle énergie, ce courageux stoïcisme qui vont faire triompher de la douleur. Ce qui motive ce beau vers de la tragédie des Templiers, la torture interroge et la douleur répond. Un grand nombre de ces religieux révélèrent donc quelques fautes qu'un greffier vendu au juge avait la perfidie de travestir en crimes exécrables. Non seulement les Templiers furent arrêtés en France, l'implacable Philippe et Clément VI les firent saisir dans toute la chrétienté. Toutes les prisons regorgeaient de ces malheureux, entassés comme de vils troupeaux. Mais en France, ceux à qui la torture avait fait trahir la vérité, revenus de leur premier effroi et reprenant cet air héroïque qui naguère bravait la mort des batailles, se présentent devant leur juge, protestent que les aveux qu'ils ont faits leur ont été arrachés par la violence et la douleur, qu'ils les rétractent publiquement et qu'ils veulent mourir pour expier cette honte. Les juges, surpris de cette fermeté, semblent eux-mêmes des accusés. Ils balancent, ne savent à quel parti s'arrêter, mais les instruments pervers des cours de France et de Rome veulent qu'on les condamne pour avoir trahi la vérité, la première ou la seconde fois. Ils gagnent la majorité et 59 de ces chevaliers furent dégradés comme relapses et jugés dignes du dernier supplice. Leurs bûchers sont allumés, ils y montent avec calme et sérénité, ils chantent les louanges de Dieu au milieu de tourbillons de flammes qui vont les dévorer, et le peuple ne peut voir un trépas aussi héroïque sans reconnaître aussi l'innocence de ces illustres chevaliers. Et déjà, la superstition débite une foule de miracles faits à l'honneur de ces martyrs. Déjà, les murmures éclatent de toutes parts contre les inquisiteurs et les autres juges chargés de ce procès. Le roi de France et le pape auraient bien voulu dès lors assoupir cette affaire et suspendre l'instruction commencée, mais il importait de prouver à l'Europe la culpabilité de l'ordre mis en cause. Jacques Molay, grand maître, vieillard vénérable et courageux, fut du nombre de ceux qui comparurent devant les commissaires désignés par le pape. Sa dignité de grand maître l'élevait au rang des princes. Son âge méritait les égards. Il fut traduit devant les juges, chargé de faire et traité avec inhumanité. On lui demanda s'il avait quelque chose à alléguer pour sa défense. Il répondit que, né pour le métier des armes, il était étranger à l'art de la parole et demandait un conseil éclairé. On lui répondit qu'en matière d'hérésie, on n'accordait pas de défenseur, et que d'ailleurs il devait se souvenir qu'il avait avoué tous les crimes imputés. À ces mots, Jacques Molay, saisi, frappait d'étonnement. Il demande la lecture de sa déposition. Il l'entend avec une profonde indignation. « Non, dit-il, jamais ces atroces impostures n'ont soufflé mes lèvres. J'ai pu, dans un instant de faiblesse que ma mort seule peut expier, j'ai pu révéler quelques fautes, mais ces aveux, je dois l'affirmer, à la honte des hommes, ont été dénaturés par ceux qui les ont recueillis. Je méconnais donc cette déposition, œuvre ténébreuse de la fraude, de l'artifice et d'une collusion coupable. Je proteste contre elle, et puisqu'on me refuse un conseil, je borderai ma défense et celle de mes chevaliers à ce peu de mots dont l'histoire reconnaîtra la vérité. Nul ordre religieux ne pria plus que le nôtre avec ferveur et pitié. Nul autre ne fit régner plus de recueillement et de magnificence dans la maison du Seigneur, ne répandit plus d'aumônes parmi les pauvres, n'essuya plus de larmes et ne guérit pas plus le souverain saint, le malade et les infirmes. Nulle milice chevaleresque ne combattit avec plus d'avantage que la nôtre contre les Sarrasins, les Turcs et les Maures. Ne supporta avec plus de courage pour la délivrance de la ville sainte les feux du ciel africain, les pestes d'Antioche et de Tamis, les naufrages, les prisons, l'exil, la captivité, tous les fléaux et toutes les vicissitudes de la fortune. Un des accusateurs interrompa le grand maître. « Oh, tout cela, dit-il, n'est compté pour rien, sans la foi. » Et sans la foi, reprit Molay, rien de tout cela ne peut se supporter. Pour quel intérêt d'ici-bas, pour quelle récompense mondaine aurions-nous pu combattre et souffrir comme nous l'avons fait? Philippe ne savait comment sortir de cette grande procédure où ses passions l'avaient engagé. Pour paraître plus légal, il permit à tous les Templiers d'Occident de venir plaider la cause de leur ordre. Plusieurs parlèrent avec une courageuse éloquence, et quand ils eurent cessé de parler, les commissaires désignés délibérèrent longtemps, et la majorité se refusait à la condamnation. Mais le pape, indigné de tant de résistance, s'écria que si l'on ne prononçait pas judiciairement contre les Templiers, la plénitude et la puissance pontificale suppléraient à tout, et qu'il les condamnerait par voie d'expédient, plutôt que de scandaliser son cher fils, le roi de France. Le souverain pontife l'emporta et la sentence fut prononcée. Mais Jacques Molay et plusieurs autres chefs de l'ordre n'étaient pas encore jugés. On espérait leur arracher des révélations qui puissent justifier cette odieuse procédure. On offrit à Jacques Molay et à ses compagnons la liberté et des pensions. Mais ils repoussèrent ces offres perfides avec indignation. On les menaça du bûcher. « Apportez-y la flamme, dit le grand maître. Je vais monter comme dans une chaire de vérité, où je répéterai, nous sommes innocents. Tout ce dont on accuse est templier et calomnie. Je le jure à la face du ciel et devant Dieu, qui va me juger bientôt. » Les légats, embarrassés, ne savaient à quelle partie s'arrêter. Enfin, ils livrèrent au prévôt Jacques Molay et Guy, frère du dauphin d'Auvergne. Le roi assembla son conseil, et dès le soir, les héros condamnés furent conduits à la mort. Leur bûcher était élevé dans une petite île de la Seine, à la pointe occidentale de la cité, et non loin de l'emplacement qu'occupe la statue équestre de Henri IV. Les chevaliers entrèrent dans les flammes avec une fermeté admirable. Jacques Molay fit entendre alors ces mots prophétiques. Pontife calomniateur, juge inique et cruel bourreau, je t'adjure d'en comparaître dans 40 jours devant le tribunal du souverain juge. Et toi, Philippe, je t'adjure devant lui à 1 an de ce jour. Et après cette imposante assignation, le grand maître et ses frères moururent en chantant de 5 cantiques. Et 40 jours après, le pape mourut. Et au bout 1 an, Philippe descendit aussi au tombeau. Et l'on se rappela les dernières paroles du dernier grand maître des Templiers. Philippe le Bel se fit donner 200 000 livres et Louis Hutin, son fils, prit encore 60 000 livres sur les biens des Templiers. Ce qui prouva assez qu'il était le principal motif de la condamnation de cet ordre célèbre. Le Parlement, dit Voltaire, n'eut aucune part à ce procès extraordinaire. Témoignage éternel de la férocité où les nations chrétiennes furent plongées jusqu'à nos jours.